jour, de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous demander comment penser par nous-mêmes, comment cultiver notre esprit critique, un esprit critique pour notre temps. Face à la culture de la peur, quand les lendemains ne chantent plus, comment ne pas sombrer dans le découragement, le repli sur soi ou la violence? Comment, malgré ou plutôt à cause de ce qui nous arrive, retrouver le désir de résister? Titre du nouvel essai de notre invité, le philosophe Marc Répon, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, libres et ouverts, car cette résistance, forcément non violente, est à réinventer en convoquant tous les esprits libres, justement, et curieux de la planète, à commencer par les poètes, les penseurs et penseuses de tout horizon. Autour de la question, pourquoi et comment cultiver le désir de résister? Bienvenue pour partager en toute lucidité, cette lucidité qui est la blessure la plus proche du soleil, selon le poète et résistant René Char, cité en exergue de son ouvrage par Marc Répon. René Char qui inspire aussi un autre esprit critique pour notre temps, le penseur et auteur sénégalais Félouine Sarr.
C'est un texte de René Char, un poète résistant français, et c'est un texte qui indique les raisons de son engagement dans la résistance. Ce texte est très important puisque c'est une réflexion sur le rôle de la littérature et les limites de la littérature en temps de guerre et en temps de crise. Et ce que j'ai trouvé absolument intéressant, c'est que non seulement il donne une place centrale à l'écriture, mais le texte estime que devant l'inconcevable, devant la vue du sang suppliciée, écrire est dérisoirement insuffisant. Il faut un autre type d'engagement. La crise n'est pas la même, mais les monstres nous regardent, on est dans des temps qui peuvent ressembler à certaines époques crépusculaires et on a besoin de repenser nos formes d'engagement et notre rapport au réel.
On a besoin de repenser nos formes d'engagement et notre rapport au réel. Bonjour Marc Répon.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour réveiller, réanimer notre désir de résister. C'est le titre de votre dernier essai particulièrement inspirant, paru chez Odile Jacob. Il est sous-titré « Un esprit critique pour notre temps ». Un essai dans lequel Marc Répon, le philosophe que vous êtes, donc directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École normale supérieure, et très connu pour vos recherches autour de la violence, hein, comme critique de la violence, auteur entre autres de « L'épreuve de la haine et d'inhumaine conditions, combattre l'intolérable ». Pourquoi et comment nous invitez-vous aujourd'hui, Marc Répon, à résister face à tous les monstres qui nous regardent, comme le disait à l'instant Félouine Sarr, face aux crises multiples qui nous traversent et nous attendent? On peut se demander comment ne pas sombrer dans le découragement, dans la culture de la peur ou de la violence. Il s'agit avec vous de penser, de pratiquer de nouvelles formes de résistance. C'est un peu ça le point de départ, si j'ose dire, de votre réflexion.
Oui, exactement. Il importe tout d'abord de savoir à quoi il s'agit de résister. Je dirais qu'il y a deux choses essentielles auxquelles il importe de résister. La première, c'est ce que dans ce livre j'appelle la mélancolie de l'histoire.
La mélancolie de l'histoire.
La mélancolie de l'histoire, c'est un sentiment qui s'empare de nous lorsque nous avons l'impression que notre vie ne nous appartient plus, que nous sommes dépossédés de notre vie parce que les forces qui nous en dépossèdent excèdent toute notre capacité d'agir et même de comprendre. Et il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes exposés à énormément de forces de cet ordre-là. Le réchauffement climatique en est la première, à laquelle toute une génération est extrêmement sensible. La persistance de régimes autoritaires, violents, que rien ne semble être susceptible d'ébranler. La menace des guerres. Quand j'ai écrit ce livre, la guerre était déjà une réalité dans le monde, mais en tout cas, elle ne menaçait pas l'Europe comme elle le menace. Le livre est sorti quelques semaines à peine avant la guerre. Donc nous avons mille et une raisons de nous inquiéter aujourd'hui, donc de céder à cette mélancolie et d'avoir le sentiment que notre vie ne nous appartient pas, que dans le fond, nos capacités d'agir et de penser sont réduites. C'est extrêmement inquiétant, cette mélancolie de l'histoire, quand elle nous gagne, parce que elle crée un vide. Elle crée un vide, et c'est dans ce vide que peuvent s'installer les forces les plus réactives ou les plus violentes pour nous faire miroiter des solutions simplifiées qui nous permettront de redonner un sens à notre vie. Et donc, d'où la deuxième chose à laquelle il importe de résister, qui est la tentation de la violence.
La tentation de la violence, que ce soit la violence terroriste, la violence de régime très autoritaire, une violence identitaire, une violence contre l'autre aussi, hein, simplement l'autre.
Voilà, je pense surtout à toutes ces formations politiques, idéologiques, qui nous promettent la possibilité de nous réapproprier notre vie, mais au prix d'une certaine forme de violence. Donc la tentation de la violence, c'est la tentation c'est la tentation que font miroiter, voilà, ces forces politiques, de recourir à la violence pour redonner un sens à sa propre vie.
Et vous parlez aussi d'une forme de culture de la peur. Vous dites d'ailleurs, hein, dans cet ouvrage, « Rien ne vaut la peur pour donner le permis de tuer ». Alors la peur, ça peut être la peur face au terrorisme, la peur face, on ne sait pas à quoi, la peur face à la pandémie aussi, bien sûr, la peur face à l'invasion, le remplacement.
Oui, il y a maintenant longtemps, je pense qu'il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, j'avais écrit un livre qui s'appelait précisément « La culture de la peur ». Voilà. Il y a évidemment tout un tas de bonnes raisons d'avoir peur. C'est-à-dire la peur est un sentiment légitime. Nous avons raison d'avoir peur du réchauffement climatique. Nous avons raison d'avoir peur du terrorisme. Nous avons raison d'avoir peur de la misère, du déclassement. Ce qui constitue un véritable enjeu, c'est, dans le fond, la croisée des chemins. Soit nous apprenons à gérer nos propres peurs, nous apprenons à mettre un discours rationnel sur nos peurs pour comprendre quelles en sont les raisons. Soit elles se prêtent à des instrumentalisations politiques qui s'appuient dessus pour, dans le fond, soit créer des divisions au sein de la société, soit dresser une partie de la société comme une autre, contre une autre, soit imposer un régime autoritaire, des privations de liberté. Donc c'est ça la culture de la peur. La culture de la peur, c'est la façon dont la peur peut devenir un instrument idéologique et un instrument de domination politique.
Et donc pour résister, alors on en est à toutes les formes de résistance, mais résister à la peur, ou en tout cas faire avec nos peurs, hein, parce qu'il ne s'agit pas de les supprimer, donc avec lucidité, pour résister aux tentations identitaires, il faut développer un esprit critique. C'est vraiment un esprit critique sur soi-même, sur les autres, et pour notre temps très particulier.
Alors, cette instrumentalisation de la peur, elle se traduit toujours par des images et des discours. Aujourd'hui, nous sommes envahis d'images et de discours qui jouent sur nos affects, c'est-à-dire qui instrumentalisent la peur, nos peurs, pour provoquer des sentiments divers, qui peuvent être la colère, le ressentiment, la vengeance, etc. Ces discours et ces images sont toujours intentionnés. Ils ont toujours, dans le fond, ils poursuivent un objectif. L'esprit critique, c'est un esprit qui nous apprend à analyser ces images et ces discours, à prendre de la distance et du recul. À savoir, par exemple, alors, pour ce qui est des images, il y a un certain nombre de questions qu'il s'agit de savoir se poser quand on est assailli d'images ou exposé à diverses formes d'images. Qui a intérêt à nous les montrer? Comment sont-elles construites? Qu'est-ce qu'elles cachent en nous montrant? Parce qu'une image cache autant qu'elle montre. Qui les a produites? Comment et pourquoi sont-elles produites? Donc, l'esprit critique, c'est un esprit qui se méfie de toute réaction immédiate et spontanée devant les images et devant les discours, qui demande du temps, qui demande du recul, qui demande du savoir, et qui demande surtout à se méfier de ce que les images et les discours visent le plus souvent à produire, c'est-à-dire des affects, des réactions violentes, des affects et des réactions violentes qu'ils appellent. Donc c'est ça l'esprit critique. C'est une nécessité absolue dans notre temps, parce que les technologies du savoir et de l'information se sont profondément modifiées, et dans le fond, ces discours, ces images qui peuvent nous inciter à la violence, à des réactions immédiates, qui exploitent nos affects, nos peurs, notre colère, nos ressentiments, eh bien, elles font floresse sur la toile. Et c'est pourquoi l'esprit critique n'est pas un esprit qu'on a spontanément. C'est un esprit qui demande une éducation.
Comment s'éduquer donc à éduquer notre esprit critique? Comment cultiver le désir de résister, hein, de résister à ce qui nous arrive? Je propose un nouvel éclairage critique lui aussi. C'est celui du professeur de philosophie et de management. Tiens donc à l'ESSEC, le philosophe Laurent Bibard, responsable aussi de la chaire Edgar Morin de la complexité, aujourd'hui en suspens. Laurent Bibard était récemment notre invité, on l'écoute.
L'essentiel, c'est d'entretenir un esprit de résistance au sens où notre responsabilité humaine est de ne rien prendre pour acquis. Et donc la question, c'est comment, en quoi peut-on parler d'un désir de résister en lieu et place peut-être d'une forme de capacité inhérente à l'humain de résistance, de prise de recul, d'interrogation du réel. Est-ce un désir? Est-ce la réalité de l'humain? La réalité de une possibilité insigne de l'humain? Ou peut-être même une forme de devoir? Je pense évidemment à la résistance dans les années 40.
Parce que vous avez quand même, non pas un souci, mais vous avez une petite réserve tout de même par rapport à cette question de résister et de résistance?
Non, pas du tout par rapport à la question de la résistance, mais je m'interroge sur le sens du mot « désir » de résister. C'est parfois un besoin de résister à quelque chose d'inacceptable. C'est parfois justement le sentiment d'un devoir où on se dit « mais je ne peux pas faire ça qu'on me demande, donc on résiste ». Et donc c'est pas la résistance en tant que telle qui me pose question, c'est le désir de résistance qui est, je crois, intéressant de creuser du coup.
Alors creusons, cher Marc Crépon, cette notion de désir de résister.
D'abord, je vous remercie beaucoup, c'est une très très belle interrogation, c'est une très belle question. Résister, il n'y a pas de résistance sans refus. Mmh. Donc la résistance suppose qu'on sache à quoi
on dit non,
mmh. Exactement. Donc on résiste à la misère, on résiste à l'injustice, on résiste aux inégalités, on résiste à la violence parce qu'on les refuse. Mais ça ne suffit pas, il faut encore savoir pourquoi on les refuse. Et on ne les refuse, on est capable de refuser l'inégalité, on est capable de refuser l'injustice, de refuser la misère, que sur le fond d'un désir. Il faut désirer la justice, il faut désirer la paix, il faut désirer l'égalité, pour que ce refus prenne racine. Je suis toujours, extrêmement frappé. Il y a une question qui m'a toujours poursuivi, qui est dans le fond celle de la jeunesse de la conscience politique. Qu'est-ce qui fait que
dans son
adolescence, je passais ma vie avec des jeunes, puisque c'est mon métier.
Avec des étudiants, bien sûr.
Avec des étudiants. Comment se forgent les convictions politiques des uns ou des autres? Comment se forge le refus du racisme, le refus de l'antisémitisme, le refus de la misère sociale, etc. Eh bien, il ne peut se forger que s'il est porté par le désir d'autre chose. C'est quelque chose qui, me donne beaucoup à penser aujourd'hui, parce que je trouve que les nouvelles générations, ces générations qui ont 20 et 30 ans, c'est pour ça que j'ai quand même un certain espoir et une certaine confiance, ils sont portés par ce désir-là. Tous ces grands mouvements qu'on a vus en ce moment, même autour des dernières élections présidentielles, mouvement écologique, je pense aussi au mouvement MeToo, à tous ces grands
Black
engagements.
Black Lives Matter.
Voilà, et Black Lives Matter, effectivement. Je pense à toutes ces grandes formes d'engagement qui sont très très présentes dans la jeunesse d'aujourd'hui. Ils n'ont pas de sens, donc ce sont des mouvements de résistance, ils veulent bien, ils résistent à un certain nombre de choses. Mais cette résistance-là n'a pas de sens si elle n'est pas portée par le désir d'autre chose.
Mais vous mettez le doigt là, Marc Répond, et on va y revenir au cours de cette émission, et vous y répondez, enfin, vous donnez des pistes dans votre ouvrage « Le désir de résister ». Vous mettez le doigt sur le fait que, justement, comment fait-on pour que ce ne soit pas une résistance négative, pas une résistance que colérique, ou pas une résistance violente, mais une résistance en quelque sorte positive, qui parte de... Parce qu'au fond, alors vous parlez de jeune génération, je ne suis pas de la jeune génération, mais je trouve qu'on manque terriblement... En Europe, en Occident, je ne sais pas si c'est de valeurs, mais de choses à défendre, de choses qu'on veut défendre, de choses positives. Alors, on n'a pas envie d'être seulement contre, on a envie d'être pour.
Oui,
aussi.
Mais voyez, donc justement, alors pour dire la mélancolie de l'histoire, sortir de la mélancolie de l'histoire, ça suppose de savoir entendre encore en soi cette voix de la conscience qui nous fait désirer donc la justice, la sortie de la misère, l'égalité, un monde différent, c'est-à-dire un monde dans lequel l'exploitation des ressources ne vire pas au saccage de la planète, etc., etc. Bon, ça c'est positif.
Absolument.
Ça c'est positif. Ensuite, il y a la méthode pour donner droit à ce désir. C'est-à-dire pour faire que ce désir ne se traduise pas simplement par un refus complètement passif. Et moi, je crois beaucoup à l'invention d'un certain nombre de formes d'engagement qui manifestent ce refus et qui manifestent ce désir d'autre chose. Vous avez tout à l'heure très gentiment rappelé l'un des livres qui précède celui-là, qui s'appelle « L'épreuve de la haine », dont le sous-titre était « Essai sur le refus de la violence ». Et c'est un livre dans lequel j'avais cherché justement à décentrer l'attention souvent des philosophes européens qui travaillent essentiellement sur des problèmes et des phénomènes européens. Donc il y avait un grand chapitre sur les États-Unis d'Amérique, le racisme, il y avait un grand chapitre sur l'apartheid aussi, Nelson Mandela. Et moi je suis très très, et sur Gandhi aussi, je suis très porté, c'est indispensable, c'est inséparable de tout ce que j'explique là aujourd'hui à votre antenne, très porté par les penseurs de la non-violence. Dans le fond, et Gandhi, et Nelson Mandela au début, hein, beaucoup, et Martin Luther King, bien évidemment, sont pour moi des sources d'inspiration parce que, d'abord, il n'est pas vrai que la non-violence n'ait pas produit des effets. Elle a produit des effets dans ces pays-là. Et donc, nous avons à inventer des pratiques non-violentes d'opposition, de refus. Je suis toujours infiniment attristé, et ça se produit tout le temps, quand une grande manifestation... pour des causes qui sont toujours profondément légitimes à Paris, que ce soit pour le climat, que ce soit dans le cas Black Lives Matter, que ce soit pour toutes les formes, en tout cas, de cris contre l'injustice, la misère, etc., tournent à la violence. Quand elles sont infiltrées par des éléments qui ne cherchent, dans le fond, rien d'autre que profiter de cette occasion pour casser, pour... Je crois que c'est contre-productif. Je crois qu'on n'obtient rien par la violence. Parce que je crois que, dans le fond, si on a le droit d'être en colère, et la colère, c'est un sentiment noble, c'est très beau, la colère, c'est une passion politique absolument nécessaire. Si on a le droit d'avoir cette détestation même, etc., greffer sur ces formes de détestation ou sur ces formes de colère de la violence est infiniment contre-productif.
On va continuer d'en parler autour de la question comment cultiver notre esprit critique, comment être résistant, non violent, grande question, immense question, qui vont continuer de nous traverser. Je propose d'écouter un chant de résistance, un chant révolutionnaire aussi, Bella Ciao, mais revisité par une jeune chanteuse ukrainienne très populaire dans son pays, Kristina Soloviev. Elle était surtout connue pour ses chansons d'amour un peu mélancoliques. C'est aujourd'hui une des voix, évidemment, de la résistance ukrainienne. Kristina Soloviev sur RFI, quand Bella Ciao devient fureur ukrainienne.
Земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив,
яка насправді була українська, людька ті проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. Катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють. У наших ЗСУ і джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сню. І джевеліни, і байрактари за Україну б'ють русню. А наші люди, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ. І скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.
Bella Ciao en version ukrainienne par Kristina Soloviev sur RFI appelle sûrement une réaction de votre part, Marc répond, non seulement parce que vous êtes l'auteur du Désir de résister aux éditions Odile Jacob, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, mais aussi parce que vous êtes professeur de philosophie. Vous avez enseigné, je crois, c'était à l'époque en Union soviétique, mais à la fois en Russie, en Ukraine.
Oui, moi j'appartiens à une génération qui devait encore faire le service national. Je l'ai fait dans la coopération et j'ai été envoyé dans ce qui était encore l'URSS à l'époque. Et je suis arrivé en 1987 en Moldavie, c'est-à-dire pas très loin de la frontière ukrainienne.
Absolument.
Donc ce sont des régions, effectivement, que je connais très bien, l'Ukraine et la Moldavie. Et j'ai beaucoup d'émotions, ça m'a beaucoup ému là, d'écouter cette version ukrainienne de Bella Ciao. Et elle va me permettre de rebondir encore sur la notion d'esprit critique. Parce que voyez-vous, cette chanson-là qu'on entend en ukrainien, on pourrait imaginer une chanson équivalente en Russie de refus de la guerre, qui refuserait la guerre, qui protesterait contre cette guerre. Or, elle n'est pas possible. Elle n'est pas audible.
Elle n'est pas possible en Russie.
Elle n'est pas possible en Russie parce qu'il n'y a pas d'espace pour une telle
pour
une critique. Et ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, entre 1987 et 1989, j'ai connu ces pays quand ils n'en faisaient qu'un. Et puis en 1991, donc ils sont devenus indépendants, la Russie de son côté, l'Ukraine de l'autre. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est le destin différent de ces peuples. C'est que progressivement, il y a eu après un très très bref espace démocratique, le peuple russe a refait l'expérience de la privation et de la confiscation de tous les espaces de liberté qui rendent possible l'esprit critique. La liberté de la presse, la liberté de la culture, des lieux de culture, des institutions culturelles, des institutions mémorielles, puisque récemment, l'institution mémoriale qui était si importante a été
interdite,
avec ce que ça suppose de monologie de la culture, de confiscation de l'histoire et de revisitation de l'histoire. Et puis, à l'inverse, en Ukraine, en Moldavie, ce sont des pays qui, durant les 30 dernières années, tant bien que mal, non sans mal d'ailleurs, c'est lent, c'est progressif, comme on le sait, ont progressivement fait l'apprentissage de la démocratie, se sont donné une presse libre, des institutions culturelles. Et donc aujourd'hui, cette guerre qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, la résistance héroïque du peuple ukrainien, c'est pas seulement une résistance dictée par des considérations nationalistes. Ce qu'ils défendent, c'est aussi et avant tout cette culture démocratique. Parce que la mémoire du totalitarisme est encore là. Et parce que dans le fond, si l'Ukraine devait tomber sous la coupe de la Russie telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est gouvernée aujourd'hui, ils savent très bien tout ce qu'ils perdraient. Et ce qu'ils perdraient, ça serait ça, cette chanson ne serait plus possible, comme ne le serait plus possible l'édition de certains poèmes, toute cette culture-là.
C'est-à-dire que cette résistance-là, elle a lieu par les armes, parce qu'en c'est la guerre, il n'y a parfois pas d'autre solution, mais c'est quand même aussi, et c'est peut-être pour ça qu'on la rejoint, une résistance qui peut aussi se jouer de manière non violente, en soutenant l'espace démocratique, l'espace, enfin, en disant la vérité, c'est possible, c'est jouable, même dans la pire des situations, de dire Je résiste par une chanson.
Alors je dirais surtout que c'est parce que l'espace ukrainien est devenu un espace démocratique que la résistance est aussi forte. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est parce que l'Ukraine... Et c'est aussi ce que les Ukrainiens voulaient en demandant leur attachement à l'Europe, etc. C'est rentrer dans un espace dans lequel, tant bien que mal, les libertés démocratiques sont relativement protégées. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que vont les choses. Après... Le temps viendra. Aujourd'hui, la résistance se fait par les armes, elle doit se faire par les armes. C'est-à-dire que c'est pas faire l'apologie, comme je le fais, de la non-violence, ne consiste pas à exclure l'idée que parfois, dans des circonstances historiques déterminées, comme celle de résistance à des oppressions fortes, on est acculé à la violence. Vous savez, il y a un texte qui est pour moi une source d'inspiration permanente, qui est un très beau texte de Camus, écrit pendant la guerre, qui sont les lettres à un ami allemand. Et d'un moment, Camus s'adresse à cet ami allemand, c'est dans l'une des dernières lettres, je crois, lui dit « Nous ne voulions pas la violence, nous ne l'avons pas choisie, c'est vous qui nous avez acculé à la violence. Je sais très bien que la violence ne soulagera pas la misère du monde. » Et c'est vrai, la violence ne soulage jamais la misère du monde. C'est toujours un surcroît de malheur et de misère, même quand elle est justifiée. Mais c'est parfois une nécessité historique.
Vous avez parlé de Nelson Mandela. Je propose d'écouter justement sa voix, une voix de la résistance pour notre temps, extrait de quelques-unes de ses interventions de Nelson Mandela, Madiba sur RFI.
I have fought against...
J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes pourront vivre ensemble en harmonie et avec une égalité des chances. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et s'il le faut, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Notre marche vers la liberté est irréversible. Nous ne devons pas laisser la peur nous entraver.
Nelson Mandela, comme d'autres avant lui, comme Martin Luther King, avait, comment dire, Marc Répond, tout compris ou presque, réussi peut-être à le mettre en pratique, mais comment ça peut nous inspirer aujourd'hui, ces grands... ces grands esprits-là.
Alors d'abord, il ne vous aura pas échappé que... Merci d'abord, vraiment merci. Toute ma gratitude pour tout ce que vous me faites écouter là en participant à cette émission.
C'est la lecture de votre livre, hein, Le désir de résister.
Vos choix sont vraiment très impressionnants et très gratifiants. Ce qui me frappe beaucoup dans cette déclaration de Nelson Mandela au départ, c'est lorsqu'il dit « j'ai résisté à la domination blanche ». Et j'ai résisté à la domination noire. Et on sait que le rêve de Nelson Mandela, dès qu'il est sorti de prison et dès qu'il a été élu à la présidence de la République sud-africaine, ça a été d'œuvrer à la constitution de ce qu'il appelait le peuple arc-en-ciel. Et je trouve ça extraordinaire, cette idée même du peuple arc-en-ciel. Et on sait quels sont les moyens qu'il a utilisés, la commission Vérité et Réconciliation, l'idée qu'il fallait, dans le fond, que toute la lumière et que toute la vérité soit faite.
C'est
que
ça.
Toute la vérité soit faite pour que la justice soit possible, pour que au moins le minimum de réconciliation requis advienne et que sur ces bases-là, de vérité et de justice, peut se constituer ce qu'il appelait la nation arc-en-ciel. C'est-à-dire une nation qui n'est reconduite ni à une race, ni à une autre, ni à une couleur, ni à une autre. Et dans lequel... dans le fond, l'identité commune de la nation soit une identité hétérogène, soit une identité faite de plusieurs mémoires, voilà, avec le meilleur et le pire, et Dieu sait si le pire avait eu lieu. Et ça, c'est une chose à laquelle je crois beaucoup, contre ce que j'appelle le piège identitaire. Le piège identitaire, c'est dans le fond, c'est l'enfermement des individus dans une identité préconstituée, déterminée une fois pour toutes, fixe, reconduite à une origine et homogène. Moi, je crois que toute identité, est faite de ce qui s'y importe, de ce qui s'y traduit, de ce qui s'y échange, qu'elle est toujours un devenir, que le propre d'une identité, c'est de ne cesser d'être différente d'elle-même, de devenir différente d'elle-même, que
vous
toute
opposez...
identité est un devenir.
C'est ça, toute identité est un devenir très important. Je pense que le désir de résister, c'est aussi quelque chose en
devenir.
Et vous insistez beaucoup, enfin, vous réfutez donc ce terme d'identité, alors ça serait une identité commune et multiple, vous opposez identité à singularité. Par contre, on peut développer notre singularité.
Oui, parce que... alors, je vais... est-ce que je peux vous lire la citation de René Char qui ouvre le livre?
Alors,
René Char dit « L'histoire des hommes est la longue succession des synonymes d'un même vocable. Y contredire est un devoir. »
Y contredire est un devoir.
Donc, dans le fond, alors cette contradiction, ce désir de contradiction, de la synonymie, c'est un principe de résistance. C'est un principe de résistance.
C'est pas être contre toujours... pour être contre, mais ne pas vouloir être figé. Allez-y, hein, Marc répond. Oui.
C'est-à-dire que nous ne voulons pas être le clone de qui que ce soit. Nous ne voulons pas répéter à l'identique ce que nous avons hérité, que ce soit de l'école, de nos parents, du milieu. Nous avons, c'est le propre de toute existence, à inventer notre propre singularité. Je pense même que c'est le propre de toute éducation. Le propre de toute éducation, c'est d'aider ceux que Hannah Arendt appelait les nouveaux venus à devenir des individus singuliers, à devenir des singularités. Pourquoi c'est important? Parce que ça consiste à dire que la naissance, en réalité, n'est pas une garantie de la singularité. En fait, singulier, on ne l'est pas forcément à la naissance. Il y a plein de forces qui peuvent vous empêcher de le devenir. Quand vous êtes élevé dans un milieu très étroit, enfermé dans des carcans sociaux déterminés, quand vous vivez dans un système totalitaire ou dans une théocratie qui vous enferme, là aussi, dans des carcans identitaires très déterminés, vous n'avez pas la possibilité d'exister pleinement comme singularité. Et donc, cette singularité, il faut l'inventer, c'est-à-dire il faut se la donner. Se la donner, ça ne passe pas par l'exploration de sa propre intériorité.
Non,
c'est pas du tout ça. C'est pas le culte de l'intériorité. C'est pas se singulariser à tout prix. La singularité, elle vient de la rencontre. Elle vient de tout ce que nous rencontrons, de tout ce qui nous est donné par la lecture, par la musique, par le cinéma, par la rencontre des autres, par les voyages. Et c'est ce qui fait de nous une singularité irréductible à aucune autre, irremplaçable, irréductible, insubstituable, qui ne se laisse traduire dans aucune autre, mais dans laquelle il y a beaucoup de choses à traduire.
Alors, je sais qu'il y a une rencontre qui vous inspire beaucoup et qui continue de vous inspirer. C'est votre rencontre avec un des plus grands penseurs africains contemporains, le philosophe Souleymane Bachir Diagne, qui enseigne à Columbia Université. Vous allez le convier, on y reviendra, à un colloque organisé à la
Northwestern University
à Chicago.
Qui a été son université pendant longtemps aux États-Unis. C'est là qu'il a commencé sa carrière, avant d'aller à Columbia.
Donc, ce sera un retour pour lui autour de la question des langues, de la traduction, de la singularité, de l'universalité. Je vous propose d'écouter cette voix singulière et universelle à la fois, résistante, critique, bienveillante aussi, Souleymane Bachir Diagne sur RFI.
D'abord, cette idée de décentrage, elle est centrale dans la démarche philosophique. Tout à l'heure, quelqu'un disait que la philosophie s'appuie sur une culture, mais cette phrase, il faut l'entendre. Elle ne s'appuie pas seulement sur une culture, elle se fait également démarche critique vis-à-vis de cette culture. Parce que si on dit qu'une philosophie donnée s'appuie sur une culture, on risque d'être enfermé précisément dans cette culture. Or, il s'agit d'avoir le geste de pouvoir se retourner sur cette culture, la questionner, demander ce qui fonde les certitudes que nous transmet cette culture. Parce que, pour revenir à la question de la transmission, nous recevons de manière passive, finalement, ce qui nous est transmis de génération en génération. Et la philosophie, c'est ce moment où on s'interroge sur la nature de ce qui nous est transmis. Est-ce vrai? Est-ce fondé? Est-ce toujours valide? Est-ce valide pour aujourd'hui? Est-ce valide pour demain? Voilà le genre de questions que l'on pose. Il faut toujours faire l'inventaire de l'héritage, passer son temps à s'interroger sur la nature de cet héritage, sur sa validité, etc. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de pouvoir déplacer son propre point de vue, se mettre en quelque sorte, pour traduire littéralement une expression américaine, dans les chaussures de l'autre, essayer de se regarder soi-même et les certitudes que l'on noie, que l'on a, du point de vue de l'autre.
C'est ce que vous faites vous-même en étant professeur à Columbia University, oui. À New York, en étant sénégalais, nourri aussi à la philosophie occidentale et passeur aujourd'hui de l'encre des savants.
Absolument,
de la philosophie africaine.
Je crois qu'en effet, et mon travail et mes délocalisations géographiques me permettent d'avoir cette posture du croisement, cette posture du décentrage permanent, de vivre sur ce triangle New York, Dakar, Paris, me permet de faire cela. Multiplier les points de vue sur ce qu'on croit savoir, ce que l'on croit savoir, ce que l'on sait trop bien pour en arriver à le questionner. Et c'est justement la démarche qu'il faut effectuer, de remettre en question ce que l'on croit savoir.
Pouvez-vous réagir, Marc Répond, à cet extrait d'interview de Souleymane Bachardian?
Oui, bien sûr. Alors, merci encore de m'avoir fait entendre la voix de Souleymane Bachardian, qui est un grand ami de très longue date. Il nous faudrait une heure encore
pour commenter les
propos de Souleymane. Vous voyez, dans le fond, ce que Souleymane dit ici, qui est très important, qui recoupe à bien des égards les choses dont nous parlons tout à l'heure, c'est qu'il y a deux héritages, il y a deux façons d'hériter. C'est très important, la question d'héritage. C'est une question centrale pour Jacques Derrida et c'est probablement c'est une question philosophique centrale depuis les origines. Il y a une façon très passive d'hériter. Et dans le fond, ce que j'appelle le piège identitaire ou le repli identitaire consiste toujours à imposer une version absolument passive de l'héritage. C'est-à-dire vous devez prendre ce qui vous est transmis au nom de l'identité sans le critiquer, de façon non critique. Alors je crois que la seule façon légitime et la seule façon juste d'hériter, c'est un héritage actif. Et l'héritage actif, ça suppose le discernement. Et donc, ça suppose l'exercice de l'esprit critique, puisque critique, le mot critique, il faut l'entendre comme le pouvoir de faire le tri. Critique, ça vient d'un vieux mot grec, le verbe krinein, qui veut dire trier. Donc, faire preuve d'esprit critique, c'est trier entre le vraisemblable et l'invraisemblable, le vrai et le faux, le juste et l'injuste, etc. Et donc, exercer son esprit critique, c'est savoir trier les énoncés et trier les images, c'est faire preuve de discernement. Bachir, très justement, ce qu'il appelle décentrage, c'est précisément ce que moi j'appelle l'hétérogénéisation de l'identité. Le fait que, dans le fond, l'identité s'invente comme singularité quand elle se laisse décentrer. C'est-à-dire quand elle se plie à ce qu'elle... Alors, elle ne s'y plie pas seulement parce qu'elle va à la rencontre de ce qu'elle traduit, ce qu'elle importe, ce qu'elle échange, ce qu'elle lit, etc. C'est ça et ça ne peut venir que de l'extérieur.
Et vous allez même, Marc Répond, jusqu'à alors critiquer, faire le tri dans l'héritage des Lumières, cet héritage occidental. Un de vos chapitres s'intitule « La trahison des Lumières ». Et je trouve que c'est très important, alors de ne surtout pas jeter le bébé, le magnifique bébé lumière avec l'eau du bain, mais peut-être de réallumer d'autres lumières et de faire le tri là-dedans. Il y a des choses qu'on veut, il y a des choses qu'on ne veut plus. Un héritage dont on ne veut plus et qu'on ne peut pas défendre aujourd'hui.
Alors, c'était absolument central dans le premier livre que j'ai écrit, qui était ma thèse, qui s'appelait « Les géographies de l'esprit », qui était une enquête sur les représentations de la diversité humaine qu'avait produit la philosophie des Lumières. C'est une enquête sur la diversité humaine telle que la tradition philosophique occidentale au XVIIIe et au XIXe siècle se l'était expliquée. Pourquoi je rappelle ça? Parce que nous avons besoin, oui, aujourd'hui, d'hériter des Lumières. Nous avons besoin d'un héritage critique des Lumières. Ce que nous devons hériter des Lumières, c'est, dans le fond, chez Voltaire, chez Proust, le refus du fanatisme, l'attachement à l'égalité, la tolérance. Et puis aussi ce grand idéal des Lumières qui se traduit dans l'Encyclopédie des sciences, selon lequel... par le biais du savoir, par le biais de l'éducation, tout individu pouvait sortir de l'ignorance. Et sortir de l'ignorance, ça voulait dire sortir de la soumission, y compris de la soumission volontaire. Donc il y a dans l'idéal des Lumières un idéal d'éducation comme principe d'un refus de la soumission, un idéal de tolérance, un idéal d'égalité que nous avons besoin de nous réapproprier. Maintenant, la philosophie des Lumières, c'est aussi une philosophie qui a produit une représentation de la diversité humaine dans laquelle était encore véhiculé un certain nombre de préjugés. Ce que dit Voltaire sur l'Afrique est abominable, et on en trouve un peu partout chez les philosophes des Lumières. Donc, ça, c'est une part, évidemment, de l'héritage des Lumières que nous devons interroger de façon critique, pas seulement parce que tous les propos racistes, etc., par principe, doivent faire l'objet d'un examen critique et d'un rejet et d'un refus, etc., mais surtout parce que, dans le fond, la vision des Lumières était une vision encore extraordinairement européocentrée, dans laquelle il était considéré que, dans le fond, le vecteur de la modernité, le vecteur de la tolérance, le vecteur de la liberté, des droits, etc., c'était l'Europe. Et comme vous savez, cette vision très européocentrée de la liberté, du droit, de la tolérance, elle s'est évidemment prolongée bien au-delà du XVIIIe et du XIXe siècle, et encore chez des grands philosophes au XXe siècle. Et il y en a encore aujourd'hui, contemporains, pour se réclamer de ce genre de vision européocentrée. Donc il faut au contraire penser que aucun peuple n'a une prédisposition supérieure à celle des autres, à la liberté, à l'égalité, aux droits, etc.
C'est dans ce sens-là qu'il faut revisiter l'héritage des Lumières.
C'est dans ce sens-là qu'il faut revisiter l'héritage des Lumières, comme un autre très très grand résistant du XXe siècle, qui est le philosophe tchèque Jan Patočka, auteur de la Charte 77, le disait déjà. Il disait déjà, Jan Patočka, qu'à un moment, lui qui a tellement réfléchi sur l'héritage de l'Europe, il disait seulement que l'avenir de l'Europe était de s'ouvrir, un peu dans le sens que développait tout à l'heure Souleymane, était de s'ouvrir aux autres cultures du monde. Et s'ouvrir aux autres cultures du monde, ça ne veut pas seulement dire les regarder comme un exotisme, comme la statue africaine qu'on va mettre dans son salon. Non, s'ouvrir aux autres, c'est comprendre que là aussi, il y a une tradition riche de pensée dont on a besoin pour résister à toutes les forces oppressives qui s'opposent à nous.
La preuve tout de suite avec votre choix musical. Anouar Brahem sur RFI, Marc répond juste pour le plaisir du oud et des Astonishing Eyes. Ouais. Frita sur RFI. Sur RFI. Pourquoi ce très beau choix musical, Marc Répond ?
Eh bien, parce que ça me permet de corriger un peu quelque chose ou de préciser quelque chose. C'est que c'est une très belle chose, la mélancolie. La d'accord, parce que voilà, ce chant, je le trouve très mélancolique. On a besoin de s'abandonner parfois à la mélancolie. Cette musique-là nous y aide, comme beaucoup d'autres, à une rêverie mélancolique. Et donc la mélancolie fait partie de notre rapport au monde, parce que notre rapport au monde est fait aussi de choses qu'on perd. Il y a des amours perdus, il y a des deuils, il y a des gens qui sont plus là. Et donc notre rapport au monde est fait aussi de mélancolie. Et donc j'ai choisi cette musique pour donner droit à cette mélancolie. Et parce que dans le fond, c'est-à-dire que c'est pas une mélancolie forcément malheureuse. Il peut y avoir une mélancolie heureuse. Moi, cette musique me rend heureux et très mélancolique en même temps. Mais la mélancolie de l'histoire, c'est autre chose. Voilà. Donc, donner droit à une certaine forme de mélancolie heureuse dans notre espace privé ou voilà, dans notre vie intime, mais résister de toutes ses forces, éthiquement et politiquement, à la mélancolie de l'histoire.
Oui, c'est vraiment... toujours sur un fil, finalement, toujours en équilibre. Il s'agit de votre ouvrage, hein, dont je rappelle que nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, s'intitule « Le désir de résister ». C'est vraiment de résister comme résistent les jeunes, mais sans violence, développer un esprit critique pour notre temps, faire le tri. Mais on est quand même toujours sur le fil, évidemment, que la mélancolie, la tristesse. Mais on est sur le fil parce que vous êtes... on est toujours en train de changer aussi, on n'est jamais le même. Au fond, il ne faut pas être figé. Il y a aussi le mouvement là-dedans, avoir du désir, avoir envie de résister, avoir envie de défendre quelque chose aussi. On est toujours sur ce fil-là.
On est toujours sur ce fil-là. Le fait de considérer que toute identité est un devenir et que c'est ça l'invention de la singularité, ça veut dire qu'on peut aussi parfois se tromper, qu'on peut aussi parfois s'égarer. Et donc on a le droit de revenir sur ce qu'on a pensé, sur ce qu'on a dit. Et dans le fond, il y a une chose qui pour moi est constitutive de l'esprit critique et qui est radicalement incompatible avec toute forme de véhémence, avec toute forme de violence, avec toute forme de jugement à l'emporte-pièce, avec toute forme d'anathème, d'excommunion, de jugement tranché, c'est l'art des nuances. Donc l'esprit critique, c'est avoir pour principe dans sa vie, parce qu'on peut faire aussi preuve d'esprit critique dans sa vie pratique, courante, c'est pas seulement sur des grandes causes du monde. Faire preuve d'esprit critique, c'est cultiver en soi, politiquement, mais aussi moralement, un certain art de la nuance, une certaine recul, une certaine distance. Et cette distance, c'est d'abord une distance à l'égard de soi-même. Parce que dans le fond, reconnaître qu'on ne sait pas tout, reconnaître qu'on peut se tromper, reconnaître qu'on a besoin d'apprendre encore, qu'on a besoin de savoir, qu'on n'est jamais suffisamment critique, qu'on n'a jamais suffisamment fait preuve de discernement, c'est prendre d'abord de la distance à l'égard de soi-même. Et ça, je crois que c'est éthiquement, moralement, l'une des grandes ressources de l'esprit critique.
Prendre de la distance, prendre un bout de temps, un bout de recul, un bout de respiration.
Dans le fond, le savoir, comme l'engagement politique, comme tout engagement dans la vie, demande un peu d'humilité.
Ah, merci pour cette magnifique conclusion, Marc Répond. Je renvoie sur votre ouvrage, donc Le désir de résister, sous-titré Un esprit critique pour notre temps, aux éditions Odile Jacob, dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert, si vous êtes à Paris d'ailleurs, je vous signale ce mardi 10 mai, donc demain, au Collège de France, cette fois un colloque public qui s'annonce passionnant et nous ferons écho sur RFI autour de la question « Quel temps pour agir ?» Avenir, quel temps d'attente. Et c'est à retrouver, entrée libre et gratuite demain au Collège de France et bien sûr disponible sur le site du Collège. Merci Marc Répond.
Merci à vous.
Vous revenez
merci
quand
infiniment.
Vous voulez pour cultiver notre esprit critique, on en veut encore.
Avec grand plaisir.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver demain autour de la vie intime de nos ancêtres Homo sapiens en Europe, mais aussi en Afrique, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Echowski au micro. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles.